la parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer avec Antoine Plane, directeur de Yes We Camp, le projet intitulé Bureau Police que j'ai eu l'occasion de visiter il y a très peu de temps avec une collègue à Marseille. Bonjour Antoine.
Bonjour Bertrand.
Pour commencer Antoine, je tiens à vous féliciter pour le projet que j'ai vu, comme je le disais, très récemment, qui m'a énormément impressionné. C'est pour ça que je voulais un peu échanger avec vous parce que j'ai trouvé ça remarquable et je pense pas être le seul aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement le projet de Yes We Camp, son origine, parce que je pense que ça remonte maintenant à quelques années, les fondateurs qui ont constitué Yes We Camp et également ses principaux objectifs.
Bah oui, avec plaisir. Eh bien, Yes We Camp, c'est un projet qui est né en 2013. C'était dans le cadre du OFF de la capitale de la culture, Marseille 2013. À l'époque, il y a un petit collectif qui se constitue autour d'un projet de camping urbain créatif et festif et écologique dans l'idée d'héberger les visiteurs de l'événement et puis de produire même sur place des événements culturels. Et c'est un projet qui a accueilli des dizaines de bénévoles de toute l'Europe, beaucoup de volontaires qui sont, au bout de 4 mois d'exploitation, ont réussi à ne pas finir dans le rouge, à héberger beaucoup de touristes, de visiteurs, des événements artistiques, festifs, de manière quotidienne. Et en explorant, sur un laps de temps quand même assez court, à peine 4 mois, et puis même pas 1 an de préparation, des modes de construction frugaux, innovants. Bon, et voilà, il y avait des douches solaires, de la phytoromédiation, des dortoirs en palettes, collectifs, enfin, des choses qu'on n'avait pas forcément déjà vues à l'époque, des caravanes réemployées, il y a des choses un peu foutraques, de l'hébergement en poubelle, construit par des artistes, enfin, voilà, c'était un mélange d'artistes, d'ingénieurs, d'architectes, avec quand même une réflexion architecturale et urbaine autour de l'accueil, de la gestion des publics, de l'accueil des bénévoles, de la gestion de l'hébergement, de l'alimentation. En fait, une espèce de mini-ville artistique et écologique qui s'est constituée très vite avec beaucoup d'énergie. Et ça a été une réussite inattendue, on va dire, d'un tel projet. Et ça a cimenté un collectif qui aujourd'hui emploie un peu ses forces, sa capacité, son énergie à investir et à transformer des sites disponibles sur un temps court en général. Enfin, on intervient rapidement pour transformer des sites disponibles en espaces communs. Et des communs, donc c'est des lieux qui sont ouverts. Et on fait cohabiter une multitude de fonctions. Je ne vais pas toutes les décrire ou j'y reviendrai, mais les opportunités sont apparues peu à peu. Et puis, on a investi peu à peu d'autres sites. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler des grands voisins à Paris, dans l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui était un moment assez emblématique de l'urbanisme dit transitoire. Et puis, à Marseille, il y a d'autres sites comme ça qui ont été abordés, comme Foresta ou Coco Velton à Marseille. Voilà, donc parmi les fondateurs, il y a des gens qui sont encore nombreux dans l'association. Il y a Nicolas Détry, mon prédécesseur, qui était vraiment tout à l'origine du projet. Certains des gens qui étaient à l'initiative sont partis. Et puis beaucoup des volontaires du premier temps se sont constitués donc en association. Alors, je pense à Aurore Rapin, Julie, Simon, enfin des collègues proches qui sont toujours très présents et aujourd'hui à des postes dans l'association. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'on a pas mal de projets. Voilà, je disais Foresta à Marseille, Coco Velton, que vous connaissez peut-être aussi dans le centre-ville de Marseille. Et puis, il y en aura d'autres. Et en fait, aucun lieu n'est identique. On n'a pas de formule magique. On a toujours l'envie et un défi qui se prononce et une capacité à occuper l'espace. Ce qui nous résume peut-être, c'est l'envie d'agir un peu sur des enjeux de transformation sociale, que ce soit sur les questions de climat, sur les questions d'isolement, de lutte contre les inégalités, en disant, si je résume, on transforme nos cohabitations en capacités collectives et on a mis en place une espèce de protocole d'utilisation inventive des espaces disponibles. Ouais, voilà, ça dit à peu près ce qu'on fait.
Merci beaucoup. Alors c'est touffu, c'est dense. Il faudra qu'on revienne peut-être, parce que le temps est passé entre 2013 et 2021, puisque je
Ouais.
voudrais qu'on parle plus particulièrement de Bureau Police. Alors, CocoVolten, j'ai aussi visité, vous avez évoqué ce site qui se trouve, pour les interlocuteurs, à Marseille, à la porte d'Aix, à
Tout à
Marseille.
fait.
Et
Ouais.
donc, c'est un lieu que j'ai visité qui est intéressant, plus petit que Bureau Police, et qui fonctionne avec. On peut en parler quelques minutes parce que j'avais visité une exposition
Les
organisée.
archives.
Oui, et puis il y avait plusieurs associations présentes, il y avait des petits lieux de production, et je crois qu'il y a aussi un espace de CocoVolten qui est réservé pour des hébergements d'urgence. Est-ce que on peut en parler 5 minutes avant d'avancer sur Bureau Police?
Oui, tout à fait. Bah, Coco, alors c'est juste, en fait, chaque cas est un cas particulier. Donc, le cas de CocoVolten, c'est une initiative de l'État, c'est la préfecture de région qui lance une dynamique autour de ce qu'ils appellent le Lab Zéro, et donc ils veulent lutter contre le sans-abrisme, donc en vue du zéro sans-abrisme, développer des modes d'hébergement atypiques qui sortent de leur politique publique habituelle. Ils sont prêts à tenter une expérimentation, et donc on se porte volontaire, nous, Yes Camp, avec à la fois Plateau Urbain, qui était notre complice au Grand Voisin à Paris et qui est une coopérative qui met à disposition des bureaux à des entreprises de l'ESS, et avec le groupe SOS, qui nous rejoint pour le volet social et hébergement. Et on invente, enfin, on récupère un bâtiment de 4000 mètres carrés, rue Bernard-Dubois, donc c'est entre la porte d'Aix et la gare, dans lequel on installe à la fois cette résidence d'hébergement d'urgence, dans laquelle il y a 80 places qui sont installées dans des anciens locaux administratifs de la DIRMED, donc c'est la direction des concentrés des routes. Et à côté de ça, on héberge en même temps 40 structures de l'ESS et on ouvre plusieurs espaces au public. Donc, il y a une halle, il y a des annexes, des petites pièces qui sont définies, qu'on peut privatiser, qu'on peut occuper pour des petits événements, sur lesquels on peut accueillir des événements culturels. Il y a aussi le toit terrasse. Et en rez-de-chaussée, on a une cantine-restaurant. Alors, c'est un lieu important, c'est les lieux de vie et de rencontre, qui est aussi voilà, il y a une programmation culturelle et festive autour de cet équipement-là. Et puis, on a même récupéré les archives dans lesquelles aujourd'hui on a un atelier participatif et une salle dédiée à l'expérimentation, donc dans lesquelles il y a parfois un artiste en résidence, parfois des jeunes entreprises. On a eu des cultures de champignons, de jeunes pousses, des transformations de microplastiques. Voilà. Donc, il y a une espèce de mélange de genre et le pari, c'est de se dire, on intègre des personnes en très grande précarité en centre-ville au sein d'un équipement qui va être en même temps une pépinière d'entreprise et un lieu économique, en même temps un équipement de quartier et en même temps un lieu de rayonnement culturel à l'échelle de la métropole. Et tout ça provoque des opportunités, des rencontres et en particulier pour les gens qui sont hébergés sur site, ça les évite de les installer dans une espèce de, bah, parfois de situation à la fois de dépendance et d'isolement. Et là, ils ont des opportunités. Il y a des petits emplois qui se créent autour du bar, de l'alimentation, de l'entretien et pas mal de rencontres. Et voilà. Donc, il y a plein d'à côté qui se construisent, qui sont pas écrits à l'avance. Quoi qu'il en soit, on a un peu un programme de départ, mais celui-ci, on le laisse évoluer et on laisse les choses se dérouler et on s'adapte au fur et à mesure aux opportunités qui nous semblent jaillir en fonction voilà, des bonnes volontés, des envies des partenaires et du quartier. Voilà pour
Merci,
Coco.
merci pour cette petite description. Merci beaucoup. On peut donc enchaîner sur Bureau Police, parce que c'est quand même le thème de notre échange aujourd'hui. C'est un lieu qui est totalement, qui est aussi situé à Marseille, mais alors à l'opposé, c'est plutôt situé au sud de la ville. Et comment avez-vous pris, parce que vous nous avez expliqué que CocoVolten, c'était l'initiative de l'État, le projet Bureau Police, situé plutôt dans la zone sud de Marseille, est à quelle initiative, la vôtre ou bien celle de la ville?
Alors, un peu ni l'une ni l'autre, ou alors tout le monde en même temps. C'est vrai que les opportunités un peu de projet d'occupation, c'est toujours des surprises, un peu des hasards. Au Grand Voisin en 2015, c'était la maire du 14e dont sa cousine était venue au camping en 2013, avait vu et lui avait dit, ah bah tiens, tu devrais proposer à ce collectif de rejoindre l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. C'est comme ça qu'on était arrivé sur place. Avec aucun programme et aucune commande. Là, Bureau Police, c'est encore autre chose. C'était une rencontre d'acteurs, de constructeurs de la ville en septembre, donc vraiment très récent, qui était animée à la Friche de la Belle de Mai. L'ancien directeur, donc Nicolas Détry, présente notre démarche et est présent dans la salle le promoteur ICAD, qui va bientôt racheter le bâtiment et qui dit, bon bah voilà, on a un bâtiment qu'on va, alors qui va être démoli, en l'occurrence, mais qui va être démoli dans un an ou un an et demi. Et donc, on pourrait peut-être l'utiliser sur ce temps-là. Ils sont séduits un peu par la présentation qui a été faite et se disent, bah nous aussi, on devrait faire profiter un petit peu de ce patrimoine disponible temporairement pour accueillir quelque chose. Là-dessus, on visite un bâtiment qui est assez contraignant. Alors, avec à la fois ICAD et le propriétaire à l'époque, encore actuel, qui est la compagnie Vauban. Comme un an, c'est très court, on hésite beaucoup. On se dit que le bâtiment qui a été curé, donc les plateaux ont été démolis, il n'y a plus de cloison, il n'y a plus d'électricité, donc on a des grands plateaux vides et on s'est dit bah, peut-être que ça peut intéresser des ateliers d'artistes. Et sur cette base-là, on fait tourner un espèce d'appel à visite. Et en fait, c'est un raz-de-marée. Il y a 100 personnes qui participent en novembre à des petits ateliers sur site qu'on organise. La mairie d'arrondissement est présente. La mairie de Marseille aussi entend parler du projet. Et très rapidement, ils s'engagent à nous soutenir. Et c'est ce soutien un peu décisif, notamment de la mairie de Marseille, pour qu'on engage vraiment les discussions avec le propriétaire. Et comme l'équation économique ne tenait pas sur un an, avec un bâtiment qui est un gouffre, on va dire, à entretenir. Il y a plein de, voilà, de taxes élevées, de contraintes d'entretien, de contraintes d'incendie. Et heureusement, plusieurs choses. Le propriétaire consent à prolonger l'occupation de 6 mois. Donc, au lieu d'un an, c'est 18 mois. Et aussi, il y a une proposition de la Croix-Rouge française qui doit déménager son centre de formation en urgence. Et donc, le loyer qu'elle apporte à l'économie du projet nous permet d'atteindre pas un équilibre, mais en tout cas un déficit suffisamment contenu pour qu'on se dise « Ok, on a peut-être une chance de le combler dans la durée du projet ». Effectivement, on s'est lancé avec un projet qui coûtait plus d'un million d'euros et dans lequel on perdait sur le papier 100 000 euros. Donc on espère qu'on ne va pas se retrouver dans cette situation. Mais bon, voilà. Et donc du coup, voilà, on s'est rencontrés en septembre, on a visité en octobre, on a fait visiter en novembre, on a signé en décembre. Donc un mois plus tard, on avait cette convention signée qui nous engage pour un an à être entièrement responsable de ce bâtiment de 15 000 m². Donc c'est quand même un gros pari avec une équipe de à peine 4 personnes qui est constituée dans la foulée. On lance un appel à projet, on reçoit des centaines de candidatures d'occupants, principalement du milieu culturel, artistique et artisanat. Et hop, on engage des investissements, on est en discussion avec les marins-pompiers. Et voilà, fin février, on est complet. Et fin mars, on a à peu près terminé les aménagements. On attend l'autorisation officiel d'ouvrir au public, à la fois sur le plan réglementaire et puis sur le plan Covid. Et on espère une inauguration début juin, donc pour vous dire un peu le rythme qui s'impose.
Oui, merci beaucoup. Et oui, ça fait un peu tourner la tête parce que, alors, on comprend mieux peut-être la raison pour laquelle les pouvoirs publics peuvent faire appel à vous, parce que on le comprend quand on voit la vitesse avec laquelle vous pouvez intervenir.
Ouais.
Donc oui, parce que c'est une rapidité d'intervention que seul vous pouvez mener, organiser les collectivités en inertie qui fait qu'elles pourront pas intervenir à cette vitesse-là. Vous avez évoqué le chiffre d'un million d'euros. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est vrai que oui. C'est important de revenir sur le montage financier sans entrer trop dans les détails, mais Ça donne une idée de la masse que vous êtes capable de manipuler, la masse budgétaire que vous êtes capable de manipuler. On est 1 million d'euros, on est, pour donner un ordre d'idée, sur le fonctionnement annuel d'un centre d'art hein, en région.
Ouais, D'accord.
Ouais, c'est vrai, parce qu'on ne s'en rend pas compte forcément quand on sort ce chiffre. Mais 1 million d'euros, on a des centres d'art en région qui fonctionne avec moins que ça, de manière annuelle, avec plus d'une dizaine de salariés et des expositions régulières. Donc ça signifie peut-être que les centres d'art sont sous-dotés, mais ça signifie surtout que le projet que vous avez, que vous êtes en train de mener depuis quelques mois est quand même relativement important.
Oui, alors juste sur Oui, sur ce million d'euros, je voudrais je voudrais pas qu'il y ait de mauvaises. Enfin, c'est important de dire comment il est employé. Il faut savoir qu'il y a pratiquement 700 000 euros, qui sont dédiés uniquement au fonctionnement de ce bâtiment, qui est extrêmement vétuste, fragile et qui possède pas mal de. Il y a un fonctionnement dérogatoire sur le plan réglementaire. Donc en fait, il y a Il y a pratiquement 250 000 euros de surveillance incendie. Il y a 100 000 euros de contrat d'ascenseur et de sprinkler. Il y a 250 000 euros de taxes foncières parce que c'est énorme et le propriétaire paye plein pot. C'est pas un centre, vu qu'il n'est pas un lieu public, donc du coup, ils ont des frais qui sont très, très élevés. Et en fait, aujourd'hui, l'économie du projet qui n'est pas purement liée au fonctionnement du site, elle est bien plus faible que ce chiffre-là. Et donc la réalité de l'activité, on va dire, de fonctionnement artistique, si on voulait le comparer à un centre d'art, peut-être que c'est pas ce million d'euros qu'il faut trouver, c'est plutôt les 400 000 sur un an et demi. Oui. Je crois que ça serait plutôt ça l'ordre de grandeur.
Oui, pardon, c'est vrai, Antoine, vous avez tout à fait raison de le préciser, parce que j'allais moi-même le dire, hein, j'avais été lors de la visite informé des coûts de structure qui sont colossaux, parce que le bâtiment est énorme. Et le bâtiment aujourd'hui n'est pas chauffé, c'est ce que j'ai appris en faisant la visite. Et il y a déjà des gens qui travaillent. Donc c'est vrai que les coûts de fluide, par exemple, c'est de l'ordre de 200 ou 250 000 euros. Donc c'est vrai que ça pèse énormément dans le budget, mais c'est pas un budget dévolu aux actions artistiques et culturelles.
Absolument pas. Enfin, si, ça permet du coup cette présence. Et nous, on joue plutôt sur cette présence et cet aspect volontaire des personnes qui sont là que. On n'a pas à proprement parler, il n'y a pas de budget de programmation, en vérité.
C'est ce que j'ai cru comprendre. Quel est le profil de la petite équipe qui vous entoure pour faire fonctionner le projet de Bureaupolis?
Alors, moi, j'ai plutôt parlé de la petite équipe de Bureaupolis. Moi, je suis le directeur de Yes We Camp et on a une cinquantaine d'employés. Le profil Bureaupolis, c'est assez simple. Ils sont quatre. Il y a une personne, ils sont, on va dire, deux ou trois, et donc ils sont presque tous en coordination. Alors, c'est une équipe assez horizontale dans laquelle on a un profil plutôt artistique et en même temps engagé dans la relation institutionnelle, relation partenariale, relation avec les interlocuteurs culturels. On a un profil de type programmation et qui là-dessus a un double casquette à la fois sur cette question de la programmation, mais comme on n'a pas de budget de programmation et qu'on est dans un cadre, l'idée c'est qu'on se base sur un volontariat et l'énergie des artistes qui sont hébergés sur site, on se base sur l'effet de masse. Comme il y a 200 artistes hébergés qui travaillent, qui sont accueillis pour travailler sur site, cette personne elle aura plutôt pour mission d'articuler toutes ces énergies. Et on a une troisième personne qui a fait vraiment un profil beaucoup plus administratif, effectivement, il y a 200 personnes qui doivent payer un loyer, qui doivent avoir une convention, qui doivent suivre une forme de réglementation, de règlement intérieur. Donc, il y a ce travail aussi important et de coordination de l'équipe. Et on a un profil, pour le coup, plus archi, qui gère les aspects réglementaires, les petits travaux, la coordination des travaux collectifs et partagés qui vont être faits, parce qu'on a des espaces communs, mais on a une espèce de très petit budget d'investissement, mais sur lequel on va plutôt organiser des temps collectifs d'ateliers participatifs. Donc tous ces moments de construction, il faut quand même que ce soit un peu piloté par une personne de l'art. Et voilà, donc ça fait une équipe de 4 personnes et on recrute, on a aussi 4 stagiaires services civiques qui filent un coup de main sur mettre un peu d'huile dans les rouages, aller à la rencontre des occupants, faire de la communication sur le projet, coordonner ces petits chantiers participatifs. Donc voilà, ça c'est nos profils artistiques, administratifs, programmation, architecture. Avec ça, on a déjà un beau... Et on a après, au niveau de l'association, nous on pilote au siège tout ce qui est la partie comptabilité, RH. On a aussi un directeur technique, on va dire, enfin un architecte qui pilote plutôt la relation institutionnelle avec les pompiers, etc., pour pas que ça pèse uniquement sur la personne qui est sur site. Et voilà. Et je vous épargne les autres nombreux métiers qui existent à Yes We Camp, dans les autres domaines des sites sur lesquels on travaille. Les thématiques sont assez nombreuses. On a souvent des graphistes aussi qui font de la signalétique, parce que transformer un lieu en un endroit commun et collaboratif, ça nécessite en fait une forme de communication immédiate dans laquelle on doit, quand on rentre dans l'espace, comprendre où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut pas aller, qu'est-ce qui est privé, où est-ce qu'on peut contribuer. Et voilà.
Merci. C'est vrai que la signalétique, j'en ai vu une partie, en tout cas en extérieur, et j'ai trouvé qu'elle était simple mais efficace. Après, pour ce qui est de la circulation intérieure, c'était la première visite que j'ai effectuée et dans des locaux qui sont pour une part utilisés, pour une part encore en cours de réaménagement. Donc, C'est à la fois, j'ai trouvé ça, il y a des aspects méandreux parce qu'il y a des espaces qui sont cloisonnés et en cours de réalisation sur l'aspect signalétique. Et j'ai trouvé ça simple aussi. Pour faire une description très schématique du bâtiment, c'est un parallélépipède sur 9
Oui,
étages, je crois.
exactement, avec
Voilà.
voilà, des deux cages d'escalier. Voilà, c'est assez facile à comprendre, ouais. C'est pas un labyrinthe.
J'ai une question concernant. Donc, il y a ce projet qui va être ouvert au public, on l'espère, début juin. Et puis, on a un spot dans la ville qui s'appelle la friche de la Belle de Mai,
ouais.
Une friche industrielle. Et puis, on a dans la région des tiers-lieux qui sont financés ou pas, d'ailleurs, par les collectivités. Le type de projet que vous réalisez à travers Bureaupolis, c'est entre la friche industrielle et le tiers-lieu ou c'est encore autre chose?
Alors, le tiers-lieu, c'est une définition très très large qui va du coworking à un petit peu ce dont on se rapproche, là, ce qu'on appelle les artist run space, donc des lieux qui sont complètement investis par un collectif citoyen. L'idée du tiers-lieu, c'est plutôt d'avoir un endroit qui soit aux usages multiples et qui soit généralement à la rencontre entre le privé et le public, donc entre l'espace public qui est ouvert à tous, l'espace privé qui est intime. Et entre deux, de créer des endroits où le public peut s'investir, peut rentrer, peut, voilà. Et toutefois, c'est pas complètement le cas. Et donc voilà, c'est ces lieux de rencontre, les tiers-lieux. Et la friche en tant que telle, c'est souvent c'est juste un délaissé urbain, construit ou non. Et une friche, une fois qu'elle est investie et transformée, on aime bien la transformer en tiers-lieu. Après, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui récupèrent des friches et qui en font des bureaux ou des hôtels de luxe. La friche de la Belle de Mai, c'est un tiers-lieu culturel. Et après, un tiers-lieu, il y en a plein. Et sur toutes les thématiques, aujourd'hui, nous, on a des tiers-lieux à consonance plutôt sociale, plutôt festive. Et là, vraiment, on est plutôt sur. On se rapproche plus de ce qui est. L'idée de cet endroit, c'est d'avoir un lieu quasiment en autogestion, avec quand même une dominante artistique et culturelle très forte à Bureaupolis.
Oui, merci. C'est vrai que c'est ce qui fait, là, je pense, la distinction entre une friche industrielle institutionnelle comme la friche de la Belle de Mai, avec donc une participation financière des pouvoirs publics relativement importante, et le projet Bureaupolis, c'est la légèreté avec laquelle vous travaillez aujourd'hui, parce que finalement, l'école de la Croix-Rouge finance une partie du projet,
oui.
Sous forme de loyer. Et pour l'instant, quelle est la part des financeurs publics dans ce projet aujourd'hui?
Elle est de 15% pour l'instant. En fait, la mairie de Marseille s'est engagée à donner 100 000 euros. Donc sur 1 million 2, ça fait moins de 10%. Pardon, ouais, j'avais dit 15, mais c'est moins de 10% pour l'instant. Après, on compte un peu sur, vous voyez, il nous reste toujours 100 000 euros à trouver. Donc on espère, on imagine, vu l'intérêt que suscite et puis du projet en. Pour plein de raisons, qu'on pourra compléter ce tour de table avec d'autres financeurs. Mais pour l'instant, oui, la part de l'argent public dans ce projet, elle est en pourcentage, hein, en montant, c'est quand même un gros montant, 100 000 euros, mais en pourcentage, on est à un projet qui est autofinancé à plus de 90%.
Merci. Quand j'ai visité Bureaupolis, Raphaël, votre collègue, me disait qu'il y avait donc 200, et on en a rencontré quelques-uns, 200 artistes à terme qui sont attendus sur le site,
ouais,
plus une centaine d'autres en liste d'attente. On a vu des gens travailler, hein. Il y a des gens qui sont déjà, il y a disons des studios, des ateliers qui sont déjà opérationnels avec des gens à l'œuvre, des gens préparant. C'était très très d'ailleurs, ça nous a remonté le moral à ma collègue et moi, parce qu'on a vu des artistes préparant des expositions qui allaient être
ouais.
Ouverte au public cet été, donc ça nous a fait très plaisir dans des galeries privées par exemple de la région. L'engouement qu'il y a eu lors de l'appel à candidature s'explique de quelle manière? Alors, il y a probablement l'attractivité du loyer plus que symbolique, mais est-ce qu'il y a l'effet de masse qui a joué et que vous évoquiez tout à l'heure? Vous avez utilisé l'expression effet de masse. Est-ce que ça n'a pas joué en faveur de l'engouement des artistes pour le projet?
Oui, Alors, il y a un double phénomène. C'est vrai que plus les artistes avancent dans la carrière, plus ils ont besoin d'espace pour du stockage, notamment, mais aussi des œuvres parfois monumentales ou qui sont difficiles à réaliser, voilà, dans des petits espaces. Et on a du mal à trouver des mètres carrés dans des métropoles accessibles pour ce genre de travaux. Mais il est très net que l'engouement qui a été créé, c'est une forme de bouche à oreille, chacun s'est passé là, donc il y avait un besoin, hein, c'est ça que je veux dire par là, il y a un besoin réel d'espace, d'espace à coût abordable, qui sont pas forcément symboliques. Moi je trouve qu'il y a quand même, enfin, faut quand même pouvoir payer, et les artistes le font, donc, mais au-delà de ça, l'envie de contribuer à un projet, l'envie d'être à l'origine d'un projet aussi communautaire, aussi productif, et d'être, d'en faire partie, d'en être, je pense que ça a été vraiment un moteur pour que, enfin, je pense que chacun voyait son voisin se candidater. Il y a eu vraiment un effet de masse parce que il y a eu une envie de partager, d'être dans un lieu où on a la main, où on possède cette liberté d'exposer, un petit peu cette, enfin, comment dire. C'est cette rencontre de tous les métiers aussi qui est très fertile, qui est parfois imaginée, parfois rêvée, parfois un peu fantasmée, mais dans laquelle on se dit, bah oui, il va y avoir des musiciens, il va y avoir des artistes plastiques, il va y avoir des arts visuels, et toutes ces rencontres-là, on les pressent et on se dit à un moment donné que ça va apporter et ou faire évoluer une pratique artistique. Donc, bah oui, il y a eu cet effet. Et ça existe, voilà. Ces incubateurs, ils sont, je dis incubateurs d'artistes, c'est le cas de Push Manifesto à Paris, il y a aussi Artagon à Marseille, il y a les artistes Run Space, donc voilà, des jeux, les lieux d'autogestion par des artistes avec des outils mutualisés, je pense que c'est de ça qu'on se rapproche le plus, et puis voilà, des tiers-lieux qui sont plus classiques dans leur approche, on va dire, plus en lien avec les prix du marché et un coût d'espace partagé, mais qui permettent aussi de rassembler.
Oui, je tiens à m'excuser, c'est pour l'expression malheureuse, prix symbolique. C'est parce que j'étais en train d'essayer de me souvenir. Raphaël avait évoqué un prix au mètre carré, mais évidemment, on est sur des surfaces qui peuvent faire 50 mètres carrés, donc il faut multiplier le chiffre de 3 par le nombre de mètres carrés. Et évidemment, quand on fait la multiplication, on n'est plus vraiment sur des montants symboliques, on est vraiment sur des petites masses d'argent qu'il faut sortir tous les mois.
Ils sont plus bas qu'ailleurs, mais quand même.
Non, oui. C'est vrai que c'est plus bas qu'ailleurs, mais c'est pour des professions qui sont précaires.
Oui, c'est quand même pas.
C'est pas symbolique du tout, c'est vrai. C'est vrai que je voudrais reprendre et résumer un petit peu ce que vous disiez sur le phénomène. Il y a l'émulation, en fait. Je pense que ça joue beaucoup. C'est ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce projet. Pour avoir visité des ateliers à Marseille et ailleurs en région parisienne, c'est vrai que la différence la plus notable, je pense, notamment pour des plasticiens qui sont souvent isolés, qui peuvent se retrouver très rapidement isolés dans des ateliers à la limite de l'insalubrité, la grande valeur ajoutée du projet, elle est de réunir dans des conditions, je dirais, optimales de création, pour la création, de réunir sous un même toit tout un tas de profils différents. Et pour une pratique artistique qui se caractérise quand même par son individualisme, alors ça change peut-être, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de plasticiens qui travaillent seuls, parce que c'est comme ça que la pratique se déroule la plupart du temps. Là, il y a un changement qui opère et qui est, d'abord, je pense, qui correspond à une envie de toute une génération d'artistes. C'est une recherche, je pense, correspond peut-être à une génération de jeunes gens qui viennent travailler aujourd'hui. Et puis, c'est des vraies opportunités de carrière, je veux dire, de mobilité professionnelle.
Oui, alors... Oui, puis en plus je trouve, enfin je sais pas, on parle souvent du réseau, je sais pas moi, des gens qui ont fait l'ENA ou Sciences Po, mais son construire son réseau artistique, c'est à mon avis très important aussi, donc c'est peut-être naturel, enfin d'avoir envie d'avoir ces opportunités, enfin pendant un an d'être en cohabitation avec 200 personnes, je pense que ça accompagne derrière une carrière créative et professionnelle. Après peut-être que si je pouvais caractériser ce qui se passe dans cet engouement, je crois qu'il y a plusieurs choses, mais d'abord il y a beaucoup de nouveaux artistes à Marseille, il y a une effervescence, il y a une envie de venir à Marseille, donc il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui n'ont pas forcément constituer un groupe de réseau amical professionnel. Et donc, il y a cette envie-là. Et puis même au sein des artistes marseillais, c'est vrai que vous avez raison, la pratique, elle est plutôt individuelle. Et même dans l'installation au sein de bâtiments, les petits espaces individuels sont très prisés. Et après, donc l'envie de l'individualité reste, mais ce qui plaît, c'est aussi que là, il y a des lieux d'exposition et il y a des lieux partagés. Et on a envie d'être à la frontière entre les deux. C'est important de garder un espace d'intimité. Et je pense que c'est d'abord ça qui intéresse. Et il faut se dire aussi, je pense, moi, à la sortie de un an de pandémie et d'isolement, toute opportunité de faire groupe et d'avoir une perspective un peu commune et collective. Moi, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une ère du collectif là, dans les 10 ans à venir, après ce qu'on vient de passer.
Ouais, je pense que c'est une très belle manière de résumer l'entretien que nous avons aujourd'hui, et c'est surtout une manière très optimiste. Et on en a besoin d'optimisme aujourd'hui pour poursuivre l'activité artistique et culturelle à Marseille et ailleurs. Antoine, merci.
Merci beaucoup.
Il faudra qu'on poursuive. Oui, merci Antoine. Il faudra qu'on poursuive, si ça intéresse évidemment le CNFPT, il faudra qu'on poursuive cet échange. J'avais d'autres questions à poser, mais il faut qu'on mette un terme à notre entretien et on le reprendra plus tard.
D'accord.
Je rappelle donc à nos auditeurs et auditrices que vous êtes directeur de Yes We Camp, c'est ça ?
C'est ça.
Vous êtes le directeur de Yes We Camp. Et donc, à ce titre, vous suivez quasiment tous les jours, j'imagine, aujourd'hui, le bureau, le projet de Bureau Police.
Oui, tout à fait. On accompagne l'équipe au quotidien dans leur travail.
Et puis, merci beaucoup, Antoine.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
Bonne journée.
À bientôt. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.